24 janvier 1984, session du Père Marie-Dominique Philippe Lacubière sur la charité.
Commencer la dernière fois les effets de la charité. Je vous rappelle dans la question 28 quand saint Thomas dit il nous faut maintenant étudier les effets produits par l'acte principal de la charité, qui est l'amour ou la dilection. D'abord, les effets intérieurs qui sont la joie, la paix, la miséricorde. Ensuite, les effets extérieurs. Alors, nous avions vu la dernière fois la joie. Nous allons voir aujourd'hui la paix. Pour voir ensuite la miséricorde. Question 29. Il s'agit maintenant de la paix, dont l'on se demande, premièrement, est-elle identique à la concorde ? Toute chose désire-t-elle la paix ? Est-elle un effet de la charité ? Est-elle une vertu ? Alors, premier article. La paix est-elle identique à la concorde ? Je prends tout de suite le 7 contrat. Dans les méchants peuvent s'accorder, des méchants peuvent s'accorder pour faire le mal. Mais il est écrit, il n'y a point de paix pour les méchants. C'est dans Isaïe. Donc, entre les méchants, il peut y avoir une concorde. Entre des voleurs, il peut y avoir une concorde. Mais entre des voleurs, il ne peut pas y avoir de paix. Alors, tout de suite, saint Thomas souligne, la paix, c'est d'abord la concorde. Mais c'est quelque chose de plus. Donc, la paix inclut la concorde. Mais ajoute quelque chose, aliquid. C'est cet aliquid qu'il faut bien comprendre. Partout où règne la paix, règne la concorde. Mais la réciproque n'est pas vraie. Si l'on entend la paix selon sa véritable acception, donc selon sa signification parfaite. En effet, la concorde proprement dite implique une relation à autrui. C'est le consentement des volontés de plusieurs personnes. La concordia, selon Aristote, c'est le bien commun d'une communauté. Une communauté réclame la concordia quand elle marche bien. Il s'agit d'une communauté politique, qu'il s'agit d'une communauté proprement religieuse. La concordia représente justement cette unité, ce consentement des volontés de plusieurs personnes. Mais il arrive que dans la même personne, des tendances opposées se manifestent, soit entre les deux appétits sensitifs et raisonnables, la chair ayant des désirs contraires à ceux de l'esprit, soit dans le même appétit par rapport à divers objets qu'il ne peut atteindre à la fois. À l'encontre de ces mouvements en sens contraire, c'est le rôle de la paix d'établir l'union, car le cœur humain n'a point de paix lorsque, ayant quelque chose qu'il désire, il désire encore autre chose qu'en même temps il ne peut avoir. Réfléchissons sur ce que représente la paix profonde en nous. Mais cette union-là est étrangère à la concorde, qui unifie les vouloirs de plusieurs personnes, tandis que la paix va plus loin et unifie ceux d'un seul et même individu. Donc je crois que c'est là où il faut bien saisir. Il y a quelque chose de semblable entre la concorde et la paix. En ce sens qu'il n'y a pas de paix sans concorde. Mais la paix va plus loin. Parce que la paix est quelque chose de plus personnel. La concorde est toujours relative à un autre. On n'est pas en concorde par rapport à soi-même, c'est pas ? On est en concorde par rapport à un autre. Alors si on est en dissension vis-à-vis d'un autre, ça nuit à notre paix. Tout va bien, mais il n'y a qu'une seule difficulté, c'est que la sœur qui est à côté de moi, je ne peux pas la supporter. Vous voyez ? Mais tout va bien autrement. Mais si je mets la sœur à côté de moi, mais que la sœur qui est à côté de moi, ou le frère qui est à côté de moi, je ne le supporte pas. Et la concorde regarde l'autre, tandis que la paix est quelque chose de beaucoup plus personnel. On est en paix avec soi-même, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a en nous, avec tous nos appétits divers. Parce que si il y a des appétits qui vont dans un sens et d'autres qui vont dans un autre sens, c'est la tempête de Lac. Vous le savez bien. Et quand l'imagination s'en sert, ça peut être vraiment une grosse tempête. Parce qu'on sent très bien qu'il y a une tendance dans un sens et une tendance dans un autre. La paix, c'est lorsque tous les appétits sont parfaitement ordonnés à la volonté suprême de Dieu. Quand je suis en pleine conformité à la volonté suprême de Dieu et que tous mes appétits sont en conformité avec cette volonté suprême de Dieu, je peux dire que je suis en paix. Et que je suis en même temps en pleine harmonie avec ceux qui sont autour de moi. Alors là, je suis en paix. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il n'y a que la concorde, je suis en pleine harmonie avec mes voisins, mes voisines, ça va très très bien, c'est parfait, mais au-dedans de moi-même, je sens la tempête. Donc la paix va plus loin que la concorde. Alors, je prends tout de suite la première objection. On voit très bien que tout ça, c'est très proche des réflexions de saint Augustin sur la paix et la concorde. Alors il y a saint Augustin et Aristote qui luttent l'un, ils ne luttent pas l'un contre l'autre, mais tous les deux, c'est très nettement qu'il y a deux aspects différents. Il y a le point de vue de la paix et le point de vue de la concorde. Alors, première objection. Semble-t-il, on peut affirmer que la paix est identique à la concorde, puisque nous parlons de paix qui convient aux hommes, et que saint Augustin l'a définie l'union des cœurs dans l'ordre. La concordia, c'est l'union des cœurs dans l'ordre. Saint Thomas répond, saint Augustin parle ici de la paix entre plusieurs. Il l'appelle concorde. Mais qui doit être dans l'ordre, c'est-à-dire l'accord de deux hommes d'une manière convenable à tous deux. Si l'un, en donnant son consentement, n'est pas libre, mais comme poussé par quelques craintes, pareil concorde n'est pas une paix véritable. L'ordre qui aurait dû présider au contrat a été troublé par ce qui a causé la crainte chez l'un des contractants. C'est très intéressant pour les nullités de mariage. Hein, c'est tout à fait ça. On dit qu'on est consentant, le consentement de mariage. On ne demande pas s'ils ont la paix l'un et l'autre. Hein. On demande s'ils sont consentants. Ils sont en pleine concorde de s'unir entre eux. Et alors il peut y avoir, par un effet de crainte, qu'on dit oui, à cause de la crainte, le consentement n'est pas suffisant. Ça, c'est une des grandes raisons de nullité de mariage. Chaque fois que j'ai dû être témoin pour une nullité de mariage, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, eh bien, un des motifs, c'était presque toujours celui-là. C'est du reste un motif classique. À Alors, en dehors de là, tous les consentements qu'il peut y avoir, vous voyez. Vous entrez dans un couvent. Hein, pas à Bethléem, mais vous entrez dans un couvent. Vous dites, je suis consentant avec tout ce qui s'y passe. Si vos mœurs s'agréent avec les nôtres, on pourra continuer. Donc c'est le consentement, la concordia. La concordia, ça consiste justement à accepter pleinement et totalement ce qui se vit. On peut le faire par crainte. Parce qu'on a une grand-mère qui voulait absolument que sa petite-fille soit religieuse. Enfin, ça va arriver, ça. Et sur le lit de mort de la grand-mère, on a promis d'entrer à Bethléem. Ça va arriver, c'est des choses qui arrivent, ça. La grand-mère était tellement attachée. Elle n'avait jamais rien vu de mieux que ça. Alors, c'était la chose, donc il faut ma petite-fille, c'est ton bien, tu sais. Alors on a promis, alors par crainte. Hein. Alors quand on déniche cette chose-là, on voit que ça ne signifie rien du tout, hein. Parce que ce n'est pas la grand-mère qui est entrée, elle est morte. c'est la petite fille qui est entrée. C'est pas commode à porter. Hein. Alors on voit très bien ce que saint Thomas souligne ici. Si l'un, en donnant son consentement, n'est pas libre, mais comme poussé par quelques craintes, pareille concorde n'est pas une paix véritable. L'ordre qui aurait dû présider au contrat a été troublé par ce qui a causé la crainte chez l'un des contractants. C'est pourquoi saint Augustin avait commencé par dire « la paix et la tranquillité dans l'ordre ». Cette fameuse définition de saint Augustin. « Pax et tranquillitas ordinis ». Ça, il faut le retenir. C'est beau du reste. « Tranquillitas ordinis ». C'est-à-dire l'apaisement de toute agitation, de tout mouvement sensitif ou volonté dans l'individu. On va revenir là-dessus du reste. Hein. Alors prenons tout de suite les autres points de vue, sont secondaires, mais on peut les lire simplement si vous voulez. La seconde objection, une certaine unité des volontés, c'est la concorde, mais aussi la paix, puisque selon Denis, elle unit tous les êtres et produit l'unité des sentiments, consentire. Donc elle produit le consentement. Réponse de saint Thomas. De ce qu'un individu est en parfait accord avec quelqu'un, il ne s'ensuit pas qu'il le soit avec lui-même. Ça, c'est très intéressant. Si homo simul cum alio hominis, homine, in idem consensias, non tamen consensus eius, est omnino unitus. Donc, par rapport à lui-même, à moins que tous ses mouvements intérieurs ne s'accordent entre eux. Nisi etiam, sibi in vicem, omnes motus appetitivi eius sin consentientes. Donc voyez la différence. Hein. S'harmoniser avec quelqu'un, c'est quelque chose de partiel. Donc le consentement est quelque chose de partiel. La paix est totale. Parce qu'elle est avec nous-mêmes. Je ne peux pas mettre de côté certaines choses. Je peux être en plein assentiment avec quelqu'un et ne pas être totalement en paix avec moi-même. C'est beau, tu restes voir ça. Ça fait comprendre que la paix est quelque chose de beaucoup plus profond que le consentement. Le consentement, c'est quelque chose de second. La concorde, c'est quelque chose de second qu'on sentirait. Troisième objection, lorsqu'une même chose est contraire à deux autres. Celles-ci ne font qu'un. Or, c'est le cas de la concorde et de la paix. Selon le mot de saint Paul, Dieu n'est pas le Dieu de la discorde, mais de la paix. À la paix s'oppose un double désordre dans le même homme, entre plusieurs hommes. À la paix s'oppose un double désordre dans le même ordre entre plusieurs hommes. Dans le second, seul et discorde est opposé à la concorde. Donc, la discorde s'oppose à la concorde. Et la discorde ne s'oppose pas immédiatement à la paix. Mais évidemment, la discorde empêche la paix, puisqu'il faut pour qu'il y ait la paix, qu'il faut qu'il y ait la concorde. Mais c'est un élément plus partiel, exactement comme la concorde. Il y a une opposition de contrariété entre discorde et concorde, et la paix est quelque chose de plus profond, mais qui implique la concorde. S'il y a une discorde, on ne sera pas totalement en paix. Pour être parfaitement en paix, il faut d'abord que je demande pardon à mon voisin. Et puis, il a demandé pardon à mon voisin, maintenant je suis en paix. Parce qu'il y avait telle ou telle discorde. Oui. Mais on peut très bien ne pas être en paix, même si on est en concorde avec son voisin ou sa voisine. C'est deux choses différentes. La paix va plus loin. C'est tout simplement cela qui est à retenir. Chose de beaucoup plus radicale. La paix exige l'unité profonde de tous mes appétits, alors que la concorde exige une certaine union avec celui qui est proche de moi.
Père, est-ce qu'on peut dire analogiquement que la paix, c'est au niveau de la cause finale, de la fin, et puis la concorde au niveau du bien commun ?
La concorde est sûrement reliée au bien commun. Tandis que la paix est quelque chose de beaucoup plus profond et donc regarde le bien personnel. Oui, donc la fin, la finalité. Vous voyez ? Sûrement. Toute chose désire-t-elle la paix ? Saint Augustin et Denis l'affirment. Le fait de désirer quelque chose implique celui de le posséder et donc celui de voir disparaître tout ce qui y mettrait obstacle. Cet obstacle vient d'un désir contraire qui peut exister ou dans celui-là même qui désire ou dans un autre. Or, la paix le fait disparaître, prouvant bien ainsi qu'elle est elle-même désirée que la paix le fait disparaître, prouvant bien ainsi qu'elle est elle-même désirée par quiconque désire quelque chose. Puisqu'il désire ainsi le posséder et en jouir tranquillement et sans empêchement, ce qui est la définition même de la paix. Et comme le dit saint Augustin, la tranquillité dans l'ordre. Tranquillitas ordinis. Il faut que tout soit ordonné, et que tout soit ordonné d'une façon tranquille. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Hein. Autrement dit, il y a quelque chose de plus. Il y a une tranquillitas ordinis. Première objection, non, semble-t-il du moins, pas les choses privées de sentiments, puisque d'après Denis, la paix produit l'unité des sentiments. Donc la question c'est de savoir si toute chose désire la paix. Alors on dit non. La paix existe pour ceux qui ont un certain sentiment. Saint Thomas répond, l'union réalisée par la paix ne s'arrête pas à l'appétit intellectuel ou raisonnable, et à l'appétit sensible. Elle s'étend jusqu'à l'appétit naturel. Ça, c'est très intéressant. Pas une question de sentiment, autrement dit. Denis dit que la paix produit le consentement, l'union des sentiments, ou l'appétit conscient. C'est la connaturalité, l'union des instincts ou appétit naturel. Oui. Et la connaturalité, l'union des instincts et l'appétit naturel. Autrement dit, pour qu'il y ait paix, il faut nécessairement l'union des sentiments ou des appétits conscients. Donc l'appétit intellectuel et l'appétit sensible. Il faut en plus la connaturalité, et l'union des instincts ou appétit naturel. Vous voyez qu'ici, saint Thomas identifie les, dieux, les deux en disant l'union des appétits naturels. Per con naturalis veri importe. Non, c'est la traduction qui met instinct, hein, c'est ce qui me semblait. C'est l'union, c'est l'appétit naturel, c'est pas saint Thomas. Donc, il faut supprimer instinct. Parce que instinct, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est pas tout à fait la même signification, ça m'étonnait que saint Thomas mette les deux en parallèle. C'est tout simplement l'appétit naturel.
Père, qu'est-ce qu'on met sous
tranquillité? Vous savez bien que le mot tranquillitas, c'est stoïcien. C'est un mot qui revient des stoïciens. La tranquillité de l'âme, c'est la possession plénière de l'âme pour les stoïciens. Vous êtes tranquille lorsqu'il y a une possession parfaite de vous. Oui, c'est pas tranquillitas. Donc, dans tranquillitas ordinis, c'est la conscience que j'ai que tout est ordonné et une certaine possession de cet ordre. C'est le mot est stoïcien. Hein. C'est quelque chose qui provient de tout le stoïcisme, ça, la tranquillitas animi, on voit ça chez Sénèque. Et au fond, ça a été repris par Cicéron, ça a été repris ensuite. On voit très bien que c'est quelque chose qui provient de toute la morale stoïcienne. Et saint Augustin l'a repris, saint Augustin reprend son bien, et c'est beau, c'est très beau du reste, tranquillitas ordinis. Mais il faut bien comprendre, hein, c'est pas l'eau tranquille. C'est une conscience profonde que j'ai de l'ordre qui est en moi. Et une certaine domination, donc un certain recul par rapport à cet ordre. Je crois que c'est ça qui est impliqué dans tranquillitas. Tranquillitas, la tranquillité de l'âme, la tranquillité de l'ordre dans l'âme. Alors, seconde objection. Beaucoup désirent la guerre, se plaisent aux dissensions. Mais c'est tout le contraire de la paix. Alors, c'est pour montrer que, vous voyez, il n'y a pas la même chose. Différent le point de vue de la discorde, puisqu'on peut aimer la discorde. Alors, saint Thomas répond, les fauteurs de guerre, ceux qui cherchent la guerre. Les fauteurs de guerre et de dissension désirent eux-mêmes une paix qu'ils estiment ne pas posséder. Comme on l'a dit, une entente qui va à l'encontre de préférences personnelles, ce n'est pas la paix. C'est un accord défectueux que l'on rompt par la guerre dans le but d'arriver à un nouvel accord qui ne laisse plus rien à désirer. Vouloir la guerre, c'est donc toujours vouloir une paix meilleure. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est sûr qu'il faut regarder le latin. Et propter hoc omnes bellantes querunt per bella ad pacem aliquam pervenire perfectiorem quam prius aberent. Donc, si on veut la guerre, c'est qu'on veut une paix plus profonde que celle qui existe actuellement. Une paix plus profonde. Et donc, c'est vraiment toujours la paix qu'on cherche. C'est ça qu'il faut prouver. C'est qu'il y a un appétit naturel dans l'homme de la paix. Et vous voyez pourquoi on veut faire ça, hein ? C'est pour montrer le lien qui existe entre l'amour et la paix. Il y a un appétit naturel à l'égard de l'amour. La haine est toujours seconde. Elle n'est jamais première. Elle est toujours seconde. Donc la première chose qu'on veut, c'est aimer. Si la première chose qu'on veut, c'est aimer, et qu'il y a un lien entre l'amour et la paix, nécessairement, ce qu'on cherche en premier lieu, c'est la paix. Alors si on dit, mais il y a des gens qui cherchent la guerre. Dans toute communauté, il y a des gens qui cherchent la guerre. Même dans les communautés religieuses, hein, il y a des fauteurs de guerre. C'est très curieux. Les psychanalystes et les psychiatres aiment beaucoup de voir ces fauteurs de guerre. Il y a des gens qui aiment de briser l'unité pour jouer un rôle. Parce qu'ils n'aiment que le bien difficile. Or, le bien difficile ne peut exister qu'en temps de guerre. Alors, ils veulent être conquérants de ce bien difficile. Et ils produisent la guerre pour ce bien difficile. Vous voyez, ça, c'est l'irascible. Il faut avoir son os. Si on ne l'a pas, ça ne va pas. Ah, s'il devient trop facile, si vous avez une viande désossée, ça ne va plus du tout, enfin, c'est le concupiscible, ça. On enlève toutes les arêtes. Tandis qu'au contraire, le bien difficile, c'est qu'il y a un os. Alors on peut très bien créer ça, les psychologues, là, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de très vrai. Quand l'irascible est très développé, on aime la guerre. On aime la guerre pas pour la guerre, on aime la guerre pour le bien difficile. Et au fond, c'est ce que saint Thomas souligne là, d'une autre manière, parce qu'il ne le fait pas d'un point de vue psychologique, mais on pourrait le faire d'un point de vue psychologique. C'est de voir que si on désire la guerre, c'est qu'au fond, on cherche par derrière un bien plus profond, une paix plus profonde. Vous voyez, je prendrai aujourd'hui, n'est-ce pas, ceux qui veulent la guerre, prétendent qu'ils veulent la paix. N'est-ce pas, c'est bien évident, pour une paix plus profonde. La paix profonde ne peut exister que si tout le monde est marxisé. Donc, tant que tout le monde n'est pas marxisé, il faut nécessairement la lutte pour avoir la véritable paix. Et donc, on veut la guerre pour une paix plus profonde. Je vous ai déjà raconté cet exemple. Ces chers amis que j'avais vus et qui avaient été en Russie, c'était trois militaires... l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer, la marine. Il y avait été à trois pendant 8 jours. C'était il y a 2 ans, à Moscou, au moment des grandes manœuvres. On les avait invités. Et puis chaque fois, on leur présentait une carte de l'Europe. Et puis là, on mettait tous les pays non occupés par la Russie, entourés de rouge, et tourner vers ces pays des flèches rouges. La première fois, ils regardent. La seconde fois, même carte. La troisième fois, même carte. Alors je crois que c'est l'amiral qui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ils ont répondu du tac au tac, mais directement. On aime beaucoup la France. Mais on ne peut pas supporter le capitalisme. Donc on doit supprimer le capitalisme pour libérer la France. Et nous ferons la guerre. On est décidé. Ils ont dit ça ouvertement. Parce que nous vous aimons la France, il faut la libérer. Vous voyez, c'est exactement cet secondum. Illustré d'une manière tout à fait présente et actuelle. C'est exactement ça. Et je crois que c'est très vrai, ça, c'est très juste. Ils veulent la paix, mais une paix à leur manière. C'est-à-dire une paix au-delà de toute espèce de diversité qu'il peut y avoir du point de vue économique. Troisième objection, le bien seul est désirable. Mais il y a une paix qui est mauvaise, celle dont le Seigneur disait qu'il n'est pas venu la porter. Donc, on ne désire pas de la même manière le bien et la paix. Objection. Alors, la paix consiste dans l'apaisement ou dans l'union des désirs. Pax consistit in quietas. Vous voyez le terme stoïcien, trente quietas et quietas, hein. Ça, c'est le repos. Donc la paix consiste in quietatione et unione appetitus. Donc, dans le repos, la quiétude, hein, le repos et l'union des appétits. Nouvelle définition. Il faut relever toutes les définitions de la paix. Hein. Mais, de même que le désir peut avoir pour objet un bien véritable ou un bien apparent, de même la paix peut être réelle ou seulement apparente. La vraie paix n'est compatible qu'avec le désir d'un bien véritable. Car le mal, même s'il en a quelques ressemblances avec le bien, n'est jamais sans de nombreuses imperfections qui sont une source d'inquiétude et de trouble. La vraie paix n'existe donc que dans les bons et entre les bons. La paix des méchants n'est qu'apparente et jamais réelle. La sagesse le déclare, ils vivent dans un état de lutte violente par suite de leur ignorance et donnent à de tels maux le nom de paix. Mais rien n'est changé. Toujours la même chose. Le livre de la sagesse le montre bien. Quatrième objection. Ce que toute chose désire, c'est le bien souverain, la fin dernière. Mais ce ne peut être la paix, puisqu'on peut l'avoir dès ici-bas. Autrement, le Seigneur n'aurait pas recommandé « Soyez en paix les uns avec les autres ». Le vrai bien, objet de la paix véritable, peut être parfait ou imparfait, telle aussi la paix. Parfaite si elle consiste dans la jouissance parfaite du bien suprême, qui unit et apaise tous les désirs, et qui est la fin dernière de la créature raisonnable. Imparfaite, telle qu'on la trouve ici-bas, où le désir principal de l'âme peut se reposer en Dieu, y trouver une paix que viennent cependant troubler bien des assauts du dedans et du dehors. Il est bien évident que la paix que nous connaissons ici-bas n'est pas parfaite. Elle implique des luttes. Autrement dit, c'est une paix qui se fait tout le temps. Pour que la paix soit parfaite, il faut être uni au bien suprême. Donc, pour qu'il y ait paix, il faut rectitude de l'intention. Il faut une intention qui tend vers le bien suprême. Et cette intention suffit à ordonner tous les autres appétits. Mais cette intention ne supprime pas les luttes. Et donc, la paix que nous connaîtrons ici-bas ne sera jamais parfaite. Elle va impliquer des luttes. Il n'y a que la paix de l'au-delà, la paix du ciel, l'union que nous pouvons avoir avec le bien suprême, qui est une paix véritable, une paix parfaite, je veux dire. Troisième article, la paix est-elle l'effet propre de la charité? Et tout l'article est pour ça, hein, n'oubliez pas. Donc c'est cet article 3 qui doit nous faire comprendre comment il y a un lien de nécessité entre l'amour de charité, l'agapé, et la paix. Il y a une grande paix, Seigneur, pour ceux qui aiment votre loi. C'est dans le psaume. Pax multa diligentibus legentua. Il y a donc deux espèces de paix, résultat de deux espèces d'union. L'union des désirs par une subordination qui les unifie dans le même individu. Donc l'union des désirs dans le même individu qui se fait par une subordination qui unifie ces divers désirs. L'union des désirs personnels par l'accord avec ceux d'autrui. l'une comme l'autre est produite par la charité. La première parce que, aimant Dieu de tout notre cœur et lui rapportant tout le reste, tous nos désirs sont réduits à l'unité. La seconde parce que, aimant le prochain comme nous-mêmes, nous voulons faire sa volonté tout autant que la nôtre. Ce qui fait ranger parmi les éléments et les signes de l'amitié l'identité des vouloirs. Les amis n'ont qu'une volonté pour vouloir ou ne pas vouloir. C'est très simple à montrer comment la charité nous unit à Dieu et ordonne tout en vue de l'accomplissement de la volonté du Père, et que la charité unit notre vouloir au vouloir du prochain, puisque la charité fraternelle implique une amitié avec ceux qui sont proches de nous. Voyons les objections et leurs réponses. Il semble bien qu'elle existe même là où la charité n'existe pas. Donc autrement dit, la paix n'est pas un effet propre de la charité. Car des hommes, par exemple, des païens, qui sont dépourvus de la grâce et donc de la charité, qui en est inséparable, ne sont pas toujours ni absolument étrangers à la paix. Il y a des païens qui sont en paix. Et donc, la paix ne provient pas de la charité. Le péché seul prive de la grâce sanctifiante. Par lui, l'homme se détourne de sa vraie fin en choisissant une mauvaise. Son désir n'est donc point attaché principalement au bien vrai suprême, mais à ce qui n'en a que l'apparence. Il ne peut donc pas, non plus, avoir la paix véritable, mais seulement un semblant de paix. Cette solum apparens. Donc on voit bien la réponse. Alors vous voyez, c'est là où il faudrait bien distinguer aujourd'hui, parce que psychologiquement, il y a des gens qui peuvent se dire en paix, et qui ne le sont pas vraiment. Et ça c'est vrai. On ne peut pas nier. Il y a des gens qui se disent en paix, mais qui ne sont pas véritablement. On ne peut être véritablement en paix que si on est lié à la véritable fin. À la véritable fin humaine. À ce qui nous finalise, l'ami ou Dieu. Alors là, il peut y avoir une véritable paix. Autrement, il y a une paix apparente. Alors une paix apparente peut donner, psychologiquement, une certaine tranquillité momentanée. Mais il suffit quelquefois de très peu de choses pour que ça dégringole. Parce que c'était qu'une paix apparente. Comme il n'y a qu'un bien apparent. Alors psychologiquement, la paix apparente peut nous suffire momentanément. Deuxième objection. Il semble aussi qu'elle n'existe pas toujours là où la charité existe. Sans empêcher toujours les dissensions ennemies de la paix. De saints docteurs, comme saint Augustin et saint Jérôme, ne furent pas du même avis sur certains points. Nous lisons même que saint Paul et saint Barnabé ne s'entendirent pas. Hein, on pourrait multiplier les exemples, parce que ça arrive assez souvent chez les saints qui ont du tempérament. C'est, on voit très très bien. Comment c'est quelquefois très difficile. C'est deux choses différentes. Alors évidemment, on comprend assez facilement comment de là on dit, mais alors au fond, c'est pas la charité. Vous voyez le point de vue psychologique là qu'on voit. Alors ici, on le voit encore plus. Entre saint Pierre et saint Paul, il y a eu aussi des dissensions. Tout de suite, dès le début de l'Église, il y a eu des dissensions. Alors, c'est pas étonnant que la vieille Église ayant pèleriné beaucoup, et par le fait même, vous savez bien, chez les vieillards, les caractères se durcissent un peu, n'est-ce pas ? Et alors on voit d'autant plus les oppositions qui peuvent se faire. C'est évident, ça, je crois. Je crois que les oppositions peuvent se faire sentir beaucoup plus dans une église qui a 2000 ans de pèlerinage que dans l'église qui a 20 ans de pèlerinage. C'est normal. Il y a un phénomène de vieillissement. Non pas dans l'église, dans son mystère, mais dans le personnel de l'église, comme dirait Maritain. Dans le personnel et dans les membres de l'église. Alors on voit très bien. Mais c'est la différence entre une jeune communauté et une vieille communauté. Dans une jeune communauté, ben oui, évidemment, l'unité est plus parfaite. Normalement. Dans une vieille communauté, les bons vieux pères, qui ont des vieilles habitudes, et les jeunes qui arrivent, ça fait quand même quelques petites choses différentes. Mais ça arrive très vite, ça. Ça arrive très vite, les générations différentes. Alors, il peut y avoir des petites dissensions qui n'empêchent pas la véritable paix. On se respecte ayant des opinions différentes. On se respecte, on s'aime. La paix n'est pas au niveau des opinions politiques, des opinions philosophiques. La paix est quelque chose de beaucoup plus profond. Elle est dans notre appétit lié à la volonté du Père. On va voir comment saint Thomas répond. D'après le philosophe, l'amitié est moins intéressée à la conformité des opinions qu'à la concorde par rapport aux réalités, aux biens utiles à la vie, surtout aux plus importants. Ça, c'est très important de comprendre ça. Ne cherchons pas l'uniformité dans l'amitié. On peut très bien avoir des opinions différentes. Le dissentiment sur quelques points de détail n'est compté pour rien. Quand je le connais, il a sa marotte, il revient tout le temps là-dessus. Je le connais sans aucune espèce d'importance. Dès que vous dépassez ça, vous voyez tout son bon cœur. Si on dira spontanément. Vous voyez tout son bon cœur. Et alors, son bon cœur, là, on est tout à fait d'accord pour les choses essentielles. Mais évidemment, de laisser un tout petit peu. Il ne faut pas agiter avant de s'en servir. Laisser reposer. C'est comme ça. Surtout chez les vieilles sœurs. Qui ne sont pas encore très vieilles, mais qui commencent. C'est ce qu'explique que des personnes en état de grâce et de charité puissent différer d'opinion, ce qui d'ailleurs ne s'oppose pas à la paix, car l'opinion est affaire d'intelligence, et celle-ci vient avant la volonté dans laquelle la paix réalise unité, réalise l'union. Ça, c'est très net. C'est tellement important, ça. De même, pourvu que l'on s'accorde sur les biens les plus importants, le désaccord en quelque chose minime n'empêche pas la charité. Car d'où provient-il ? D'une diversité d'opinions. L'un pense et l'autre ne le pense pas. Que l'objet en litige importe à tel ou tel bien. Dont ils conviennent tous les deux. En conséquence, il faut conclure que si pareil dissentiment en matière légère et discutable est incompatible avec la paix parfaite qui suppose la vérité pleinement connue et tous les désirs comblés, elle ne l'est pas avec la paix imparfaite qui est notre partage ici-bas. Dans le ciel, tout ça disparaîtra. C'est ça que ça veut dire. Dans le ciel, tout ça disparaîtra. C'est, au fond, il y aura une recherche de vérité beaucoup plus radicale et à ce moment-là, on verra bien, on verra beaucoup mieux. Parce que c'est évident que la plupart des dissentiments proviennent tout simplement de la pénétration plus ou moins grande dans laquelle on est arrivé vis-à-vis de la vérité. Si vous vous arrêtez à 1000 mètres, si vous vous arrêtez à 2000 mètres, si vous vous arrêtez à 500 mètres, la perspective n'est pas la même. Et donc, vous décrivez cette perspective autrement. Et pourtant, c'est toujours la même réalité que vous regardez. Mais vous la décrivez autrement. Ça ne peut pas être autrement. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir des dissensions. On comprend les choses différemment. Les opinions sont diverses. Peu importe. Je crois que c'est très, très important, ça, vous voyez ? C'est très, très important de relativiser nos opinions vers quelque chose de beaucoup plus profond, qui est cette union de charité. Il faut à chaque instant, chaque fois qu'on le peut, vous voyez, comprendre que c'est cette unité dans la charité, c'est-à-dire ne vouloir que ce que le Père veut. Et la diversité des opinions, c'est secondaire. C'est un peu de poivre, hein, qui est un peu agréable. Si tout le monde disait « Amen, Amen, Amen », c'est comme les 24 vieillards, hein, ce serait que fois lassant, n'est-ce pas ? Sur la terre, pas dans le ciel, parce que les 24 vieillards dans le ciel, c'est autre chose. Mais ici, une même chose ne saurait être l'effet propre de plus d'une cause. Or, nous lisons dans Isaïe que le produit de la justice sera la paix. Ah là, c'est parole de Dieu. Hein. Opus justitiae pax. Donc, la paix relève de la justice et non pas de la charité. Et du reste, vous le direz assez facilement.